Les podcasts d'AFDS.TV. Les suppléments d'Aux Frontières des Séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Trivia Tillemanvillette.
Dans le trivia, Nat, tu vas nous parler de ces auteurs qui ont du mal à renouer avec le succès après avoir connu une grande gloire télévisuelle.
Le sommet. Comment les créateurs de séries gèrent cet après-succès, surtout quand il y a eu un succès démesuré avec vraiment une série qui marque une époque. Comment rééditer l'exploit? Est-ce qu'on applique la même recette ou au contraire est-ce qu'on propose quelque chose de totalement différent? À l'occasion de l'arrivée de la série Devious Maid sur les écrans, qui est donc le nouveau bébé de Mark Cherry, donc le papa de l'encombrante série Desperate Housewives, la question méritait d'être posée. J'avais fait un petit tour d'horizon des créateurs de séries qui ont connu un succès fulgurant, ou en tout cas un succès très marquant. Il y a vraiment ceux qui ne renouvellent jamais l'exploit. Je pense à David et Kelly, avec Ally McBeal, et dans une moindre mesure The Practice, qui a eu aussi son petit succès, mais pas aussi démesuré que celui d'Ally McBeal. Après, je suis incapable de vous citer le nom de série qu'il a fait et qui ont marqué les esprits.
Et pour avoir vu un ou deux épisodes de sa nouvelle série avec Robbins et Gellar, c'est vraiment la catastrophe.
Bon, Harry Slow, c'était quand même plutôt sympa. Et elle marchait bien. C'est la chaîne qui l'a arrêtée parce que c'était plus dans sa cible. Les téléspectateurs étaient trop vieux pour les annonceurs publicitaires. Mais c'est vrai qu'elle a quand même pas fait un tintouin comme a pu le faire Ally McBeal.
Exactement. On a Joss Whedon aussi, malgré que j'aime beaucoup ce créateur, bah il a connu évidemment la gloire avec Buffy contre les vampires. On se rappelle après que les séries qu'il a fait, Firefly, ça a été un four, bien que ça a connu un succès au niveau de la vente des DVD qui ont provoqué la sortie d'un film. Dollhouse qui n'a jamais trouvé son public. Alan Ball aussi qui avait créé Six Feet Under. Bon, bien sûr, il y a True Blood, mais True Blood, ça va pas marquer les annales des séries autant que Six Feet Under, je pense. Peut-être celle d'Anna Paquin, comme tu disais, hors antenne, mais il y a aussi ceux qui ont créé plusieurs séries à succès, avec des thèmes parfois très différents, mais qui ont fort marqué dès leur début, mais qui après se sont vite écrasés. Je pense à J.J. Abrams, avec Alias, avec Lost, évidemment, Person of Interest. On a Ryan Murphy, le papa de Nip Tuck, qui a beaucoup fait parler d'elle, Glee ou American Horror Story, mais qui apparemment tient un peu plus la route.
Là, on est en plus dans quelque chose un peu différent, puisqu'il s'agit d'anthologie, donc cette série n'a pas besoin de tenir sur plusieurs saisons avec les mêmes personnages.
Et encore, je trouve que sur une seule saison, c'est déjà un peu...
Déjà, ça s'essouffle toujours plus ou moins en mi-course à chaque anthologie. Et puis, ces auteurs, J.J. Abrams et Murphy, je trouve que... C'est des auteurs qui manient énormément le buzz. Voilà. Y a toujours une énorme publicité, promotion autour de leur série. Et finalement, on parle souvent même plus de la série avant qu'elle ait été diffusée, voire le pilote. Et puis après, ça s'essouffle parce que la série tient pas le choc. Quand on pense à Alcatraz de J.J. Abrams aussi, ou au tout nouveau Résurrection, c'est des séries qui ne tiennent pas la route du tout une fois qu'elles sont visionnées. Et pourtant, on en parle énormément.
En fait, je crois que c'est des créateurs qui tirent leurs premières cartouches dès les premiers épisodes. Et puis voilà, on a déjà épuisé le filon.
Il y en a un autre qui a complètement disparu depuis quelques années, c'est Chris Carter. Qu'est-ce qui devient Chris Carter depuis X-Files? À part les deux séries éclairs qui ont jalonné l'après X-Files, à savoir les Lone Gunmen et Arch Realm.
Une nouvelle série de Chris Carter serait en préparation. Elle fait partie de tout un groupe de séries dont les pilotes seront diffusés et dont les téléspectateurs pourront voter sur Amazon pour choisir la série qui aura droit à sa saison. J'ai vu le premier épisode et je ne me souviens d'ailleurs même plus du tout du nom de cette série. C'était vraiment pas bon du tout.
C'est dire à quel point ça t'a marqué. Et puis, parmi les créateurs des séries, il y a le cas Mark Cherry. Alors, il a sans conteste connu un succès gigantesque avec Desperate Housewives. Après 8 années de bons et loyaux services, la série a attiré sa révérence au grand soulagement de tous, vu l'incapacité crasse du scénariste et créateur à se renouveler. Dès lors, c'est vrai que le lancement de sa nouvelle série, Devious Maid, avait de quoi interpeller. Déjà, le titre ne donne pas extraordinairement envie. Et puis surtout, la grande question, est-ce qu'il allait proposer une histoire inédite ou est-ce qu'il allait tenter de reproduire le même hold-up qu'avec Desperate Housewives? Les impressions sont plutôt déjà pour la deuxième hypothèse, lorsqu'on prend connaissance de la campagne de publicité qui annonce la série. Alors là, on affiche clairement la parenté avec Desperate Housewives, on y retrouve non seulement Mark Cherry aux commandes, mais en plus Eva Longoria, qui est créditée en tant que productrice. Le visuel des campagnes de pub laisse craindre le pire, en appliquant grossièrement un copier-coller de celle de Desperate Housewives, puisqu'on a 5 femmes au look affriolant, qui prennent des poses suggestives en talons hauts et dans des robes fort moulantes. Il ne manquerait plus que leur de mettre une pomme à la main.
On leur a mis un balai. Un aspirateur.
Voilà, voilà. Et un petit plumeau à l'occasion. Mais voilà, on a l'impression que c'est vraiment la saison 9 de Desperate Housewives. Et au niveau du visuel, enfin, je veux dire, au niveau de la qualité de l'image, on est vraiment dans la même filiation.
Du rouge,
quoi,
avec du noir sur fond blanc.
C'est ça. Alors, le pitch renforce en plus cette impression de déjà-vu, puisqu'on nous propose de suivre le quotidien de 5 femmes dans les quartiers chics de Beverly Hills, à ce détail près qu'elles ne sont pas propriétaires des somptueuses demeures, et pour cause, puisque ce sont les femmes de ménage. Et donc, la série commence en plus par le meurtre de l'une d'entre elles, tiens, tiens, et la saison ne sera que le long dévoilement des circonstances de sa mort. Je pense que ça vous rappelle vaguement quelque chose, la saison 1 de Desperate Housewives.
Il y a une voix off derrière ?
Non.
Ah, il y a quand même un petit changement.
Il n'y a pas de voix off, mon Dieu merci. Alors au niveau du traitement de la série, alors Mark Cherry ne semble pas non plus décidé à sortir de ses habitudes, puisqu'on suit le quotidien de chaque femme dans les foyers respectifs, dans les demeures qu'elles sont censées nettoyer. Et c'est un quotidien qui est rempli de petites anecdotes, de petites guerres intestines, de personnages grotesques avec un lourd secret, avec des personnages qui ont très peu de personnalité finalement et qui ont tendance à réagir en action-réaction par rapport à ce qui leur arrive. Ils ont juste un trait de caractère et on les fait à chaque fois réagir de la même façon par rapport à une situation qui est différente. Et ces femmes se retrouvent de temps en temps autour d'une table pour jouer au poker. Ah non, le poker, non, ça c'était dans Desperate Housewives, mais là, elles mangent ensemble. Voilà, c'est formidable. À l'image, on ne change pas non plus une équipe qui gagne, puisqu'on a des bombasses latines qui sont des sortes de clones des Valongoria, dont on a bien du mal à croire d'ailleurs qu'elles sont femmes de ménage. Elles partagent en plus l'affiche avec plusieurs acteurs qui ont effectué des caméos chez les femmes au foyer désespéré. C'est là qu'on retrouve l'acteur qui jouait le mari de Suzanne, qui fait un petit caméo. Enfin, vraiment, on a l'impression de les avoir tous déjà vus quelque part dans une ancienne série de Mark Cherry. Et côté son, alors il a simplement remixé les jingles caractéristiques de la série Desperate Housewives, mais en version un petit peu latino. Mais on a l'impression à chaque fois qu'il se termine une petite séquence, une petite anecdote, hop, ce petit jingle se met en route, quoi.
On a les castagnettes ici.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il en est de la qualité au niveau de l'image, des décors et compagnie ? Parce que on est quand même passé ici sur une petite chaîne câblée, puisque la série est diffusée sur Lifetime.
Oui, et ben écoute, là on a rajouté du bling bling. Il y en avait déjà un petit peu dans Desperate Housewives, mais là on est chez les gens très très riches et au niveau de la qualité de l'image, ça se tient, je dois dire, mais on est vraiment dans le bling-bling, dans les immenses demeures. On a l'impression d'assister au quotidien du Tea Party aux États-Unis.
Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a non seulement le révérend Camden qui est dans la série,
oui,
mais également Grand Show.
Ça fait mal. Si. Bien sûr, l'ensemble, en tout cas la première saison, ça laisse regarder avec un petit plaisir coupable, malgré tout. Mais quand on voit à ce point les coutures et les effets de manche de Mark Cherry, on sait qu'il applique les mêmes recettes que Desperate Housewives, on sait que ça va s'effondrer très très rapidement.
Et cette résolution de crime complètement nulle, foireuse.
Voilà, ça c'est vraiment nul de chez nul. Et en plus, ce portrait systématique qu'il fait de la femme qui est extraordinairement dénigrant. Déjà, c'était assez impressionnant dans Desperate Housewives, mais on a encore affaire, parce que on suit les femmes de ménage, mais on suit aussi les femmes qui tiennent leur maison, les femmes riches. Alors, on a droit à la garce, froide et glaciale, on a l'idiote et naïve, la menteuse, manipulatrice, la croqueuse de diamants. C'est formidable, quoi.
Je voudrais pas faire mon psychanalyste, mais je crois que Mark Cherry a un petit problème avec sa maman.
je crois aussi. Et en plus, dans le caractère qu'il a mis au niveau de ces femmes de ménage, on a Suzanne, on a Brie, on a vraiment les mêmes avec quelques mini-changements, mais c'est vraiment les mêmes traits. Et en plus, le portrait des hommes n'est pas fort reluisant non plus, à commencer par Adrian Powell, qui est un parfait sosie de DSK. On est dans la grosse louche, le gros trait, une sorte de pervers sexuel, marié à une femme qui l'est tout autant, perverse. On est dans l'éléphant dans un magasin de porcelaine, et avec une délicatesse folle, Mark Cherry nous fait évoluer ses femmes en 13 épisodes. Et curieusement, la série trouve son public, puisque elle augmente petit à petit. Alors évidemment, on n'est pas dans les scores de Desperate Housewives, mais elle augmente petit à petit.
C'est Lifetime, en même temps.
Voilà, le nombre de téléspectateurs, et donc on est parti pour une saison 2, et j'espère que ça s'arrêtera très vite.
Et on a déjà eu droit au braquage, au cambriolage, à la chute de l'avion, voilà.
Non, mais je pense que vu qu'il a tendance à réappliquer les mêmes recettes, on aura certainement droit, parce que c'est effectivement vers la moitié de la saison, il essaye comme ça déjà de faire des rebondissements ou des situations un petit peu plus spectaculaires, mais voilà.
On l'aura compris, probablement pas évident de rebondir pour un créateur qui a eu un gros succès.
Mais surtout pour un créateur qui n'a pas beaucoup d'idées.
Les podcasts d'FDS.TV aux frontières des séries.